La seconde où on clique sur le bouton « Acheter » d'une boutique en ligne, on s'attend un peu à ce que la magie opère.
Oh oui, on veut que ce soit instantané.
C'est ça. L'interface est super propre. Le paiement se fait tout seul, puis on assume que le produit va juste, genre, se téléporter sur notre perron.
La fameuse téléportation logistique.
Exactement. Mais entre ce clic numérique-là et la vraie boîte physique qui arrive devant la porte, il y a une zone de danger absolue. La station d'emballage de l'entrepôt.
C'est vraiment le goulot d'étranglement par excellence.
Tellement. Une seule petite erreur humaine à cette étape précise, ça déclenche une hémorragie financière et logistique. Souvent, ben, c'est complètement invisible pour le consommateur, mais ça peut être mortel pour l'entreprise.
Ouais, parce que le succès d'une livraison, ça se joue effectivement bien avant qu'un camion quitte la cour de l'entrepôt. Et c'est un peu l'argument central de notre analyse d'aujourd'hui, qui s'appuie sur un article de blog technique de Clickship.
Un texte super intéressant qui annonce leur nouvelle fonctionnalité.
Oui, la fonction de numérisation, qu'ils appellent le scan and ship, donc numériser et expédier. Et notre but aujourd'hui, c'est pas juste d'évaluer un nouveau gadget logiciel, là. Il s'agit plutôt de comprendre la mécanique de base de l'exécution des commandes.
Bon, décortiquons tout ça, parce que l'ampleur des dégâts causés par une simple mauvaise boîte envoyée, c'est vertigineux quand on s'y penche, pour vrai.
C'est fou, oui. Et l'article montre bien pourquoi une minuscule étape de vérification d'une fraction de seconde au moment de l'emballage a le pouvoir de métamorphoser l'efficacité de toute l'opération.
On a souvent tendance à minimiser l'impact d'une erreur. On se dit, tu sais, c'est un désagrément passager, un mauvais article arrive, l'entreprise s'excuse, on fait un échange, puis on pense à autre chose.
Sauf que la réalité décrite dans le texte est pas mal plus brutale. Une commande avec une erreur, c'est jamais juste un client déçu. C'est un déclencheur pour une réaction en chaîne redoutable dans tous les départements.
Ouais, le fameux effet domino.
Exact. La source décortique, c'est une anatomie de l'erreur. D'abord, le client insatisfait doit prendre de son temps pour signaler le problème. Ça force l'intervention immédiate d'un agent du service à la clientèle.
Qui doit tout arrêter pour gérer ça.
C'est ça. L'agent interrompt son travail, ouvre un dossier, enquête, essaie de calmer le jeu. Et pendant que le service client gère la crise diplomatique, ben, la crise opérationnelle frappe l'entrepôt.
Le cauchemar logistique commence. Parce que là, le travail doit être fait à zéro. Un employé doit retourner dans les allées, trouver le bon produit qui aurait dû partir au début, le ramener à la station et refaire l'emballage.
Et c'est là que les coûts explosent.
Totalement. L'entreprise mange une série de pénalités directes. Elle doit payer une nouvelle étiquette d'expédition, elle assume les frais de transport de retour pour récupérer le mauvais article et elle paye pour une nouvelle boîte, du ruban, tout le matériel.
La marge de profit de cette vente-là vient juste de s'évaporer.
Pouf, disparu. Et ça a probablement entraîné d'autres commandes dans le rouge avec elle. J'aime bien conceptualiser ça avec une analogie culinaire, mettons.
Ah oui, j'ai hâte d'entendre ça.
Imaginons qu'on prépare un énorme gâteau de mariage. À la toute première étape de la recette, on se trompe, on met du sel au lieu du sucre.
Oh non! Le désastre!
Le drame se voit pas tout de suite, tu sais. On continue, on fait cuire les étages, on fait un beau glaçage, on monte la structure, on l'amène prudemment à la salle de réception.
Et c'est seulement quand les gens goûtent que ça pète.
Exactement. À la première bouchée, la catastrophe éclate. Recommencer le gâteau à zéro à ce stade-là, ça coûte infiniment plus cher en ingrédients, en temps et en réputation que si on avait juste pris 2 secondes pour regarder l'étiquette du pot de sucre au début.
C'était une excellente image. Le coût de correction augmente de façon exponentielle à chaque étape. Et sur le plan de la réputation, la source parle d'une dimension psychologique super importante, l'impact émotionnel de l'attente brisée.
C'est vrai que des fois, on commande des trucs urgents.
Ben oui, si l'article manquant était pour un événement immuable, genre un cadeau d'anniversaire à la dernière minute ou une pièce critique pour réparer une machine en panne, les conséquences dépassent la transaction financière.
La confiance envers la marque est fracturée.
Souvent de façon irréversible.
Ouais. Et ce qui est fascinant ici, c'est que le document argumente avec force que la précision absolue des commandes, ça devrait être traité comme une norme opérationnelle standard.
Pas juste un bonus de service client.
Exact. C'est un bouclier fondamental pour protéger la productivité de l'entrepôt et les finances. C'est pas juste un indicateur de performance.
Je vois très bien la logique financière. Mais faisons face à l'objection la plus évidente, là, je me fais l'avocat du diable. Si l'impact d'une erreur d'emballage est si dévastateur, le réflexe d'un boss serait de dire à son monde de juste faire plus attention. La fameuse solution de juste ouvrir les yeux.
Ben oui! Ne suffit-il pas d'imposer aux employés de bien revérifier la liste papier et de regarder comme il faut les produits avant de fermer la boîte?
C'est là que la documentation déconstruit méthodiquement cette illusion de l'infaillibilité visuelle. Les vérifications manuelles s'appuient sur des trucs humains ultra fragiles, soit la mémoire à court terme et la capacité d'attention.
Et ça s'effrite vite.
Surtout sous pression. Faut s'imaginer l'environnement d'un entrepôt en période de pointe. Il y a du bruit, la pression des quotas, des dizaines de commandes en file. Le cerveau d'un travailleur qui fait une tâche répétitive va chercher des raccourcis cognitifs.
C'est le phénomène de la cécité d'inattention. C'est un peu comme l'hypnose de l'autoroute, tu sais.
Absolument.
À force de manipuler des boîtes identiques, de fixer des codes à bord pendant 8 heures, le cerveau comble les vides. Là, il voit ce qu'il s'attend à voir sur la feuille, pas ce qu'il a dans les mains.
Et la complicité des catalogues de produits vient transformer cette fatigue-là en vraies erreurs. Le document donne des exemples redoutables, comme dans l'industrie du vêtement.
Ah, les vêtements, ça doit être l'enfer.
Imagine une chemise bleu marine taille moyenne et la même en taille large. Une fois pliées dans leur petit sac en plastique transparent, sous l'éclairage de l'entrepôt, elles sont virtuellement indiscernables.
C'est impossible à voir à l'œil nu du premier coup.
Un autre exemple frappant du texte, ce sont les pièces de remplacement. Un engrenage en plastique d'un modèle de l'an passé pour sembler à 99 % au nouveau.
Mais il va être totalement incompatible quand le client va vouloir l'installer.
Exactement. L'œil nu est incapable de certifier cette différence-là à un rythme soutenu.
Je remarque aussi que la structure même des méthodes traditionnelles amplifie le risque. Le timing de la vérification est à l'envers. Souvent, un commis va chercher tous les articles de plusieurs commandes en même temps.
Oui, le fameux prélèvement par lot ou batch picking.
C'est ça. Puis là, il ramène cette grosse montagne de produits sur le poste d'emballage, fait que la vérification visuelle se fait seulement à la toute fin, face à une pile d'objets tout mélangés.
Et c'est la fenêtre de vulnérabilité maximale. En regroupant les articles de cette façon, avant de les inspecter, on crée un environnement super chaotique.
C'est un terrain de jeu pour les erreurs.
Clairement. Des commandes avec des articles similaires, des produits en double, des accessoires stockés un à côté de l'autre sur l'étagère, tout ça s'entremêle sur la table. Séparer le bon du mauvais là-dedans, ça exige une concentration que l'humain peut juste pas maintenir toute la journée.
C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Puisque l'œil humain a ses limites et que la pression pour expédier vite fait juste augmenter, l'intégration d'une barrière technologique s'impose.
Il le faut. La technologie doit prendre le relais.
Mais le défi en logistique, c'est l'adoption. Les équipes sur le plancher rejettent vite les logiciels qui cassent leur rythme de travail physique.
Ouais, si c'est lourd, ils l'utiliseront pas.
Fait que c'est ce qui rend l'architecture de la fonctionnalité Scan and Ship si digne d'analyse. C'est sa façon de s'infiltrer sans friction dans la chorégraphie de l'emballeur.
Toute la conception repose sur l'élimination des tâches administratives déconnectées de l'action physique. Le processus ne demande pas à l'employé de s'arrêter pour remplir une liste.
Ça se fait tout seul dans le mouvement.
Le flux décrit dans la source amorce la séquence naturellement avec ses étapes claires. Fait que, étape 1, l'employé ouvre la commande dans l'interface de ClickShip.
Étape 2, il passe en revue la liste des produits attendus à l'écran.
C'est là que la rupture avec les méthodes traditionnelles se produit. Il n'y a plus d'inspection visuelle globale de la pile. L'étape 3, c'est de prendre un article et de numériser le code à barre exactement au moment où il l'insère dans la boîte.
Le mouvement de la mise en boîte devient la vérification elle-même. Et s'il y a un pépin, disons que le code ne scanne pas, on passe à l'étape 4, l'utilisation de la saisie manuelle.
Le SKU. Ensuite, l'étape 5, c'est de terminer la vérification dans le système.
Et la dernière étape, la sixième, c'est de finaliser l'expédition. On modifie les dimensions du colis au besoin et on sélectionne les tarifs avec le flux ClickShip habituel.
Et si on relie ça à la situation dans son ensemble, le coup de maître de cette approche, c'est d'ajouter un point de contrôle informatique rigoureux, mais sans obliger le personnel à changer d'écosystème logiciel.
L'outil agit comme une extension naturelle du travail.
Exactement. Le système confirme que la vérification est achevée et sans briser son élan, l'opérateur génère l'étiquette. C'est fluide.
Chaque petit bip du lecteur certifie qu'un produit est physiquement entré dans la boîte. On élimine totalement la dépendance à la mémoire du travailleur.
Il n'a plus à se demander s'il a mis 2 ou 3 câbles dans le fond il y a 10 secondes.
C'est réglé. La traçabilité devient granulaire, article par article. Puis le logiciel devient une espèce de gardien intransigeant qui refuse d'imprimer l'étiquette tant que tout n'est pas parfait.
La mécanique de défense est redoutable en théorie. Par contre, il faut analyser la réalité sur le plancher, surtout pour les petites entreprises.
C'est sûr qu'acheter des scanners Bluetooth pour chaque station, ça coûte cher.
C'est une dépense en capital importante. Une jeune entreprise pourrait voir cette technologie-là comme un mur impossible à franchir.
C'est une objection super valide, mais la documentation rassure là-dessus. L'architecture impose pas d'avoir du matériel spécialisé.
C'est ce qui sauve la mise.
Oui, l'interface permet la saisie manuelle. L'employé peut juste taper le code à barre ou le SKU sur son clavier standard. Ça permet à une petite opération de structurer ses disciplines d'emballage sans dépenser une fortune en quincaillerie.
Et le texte souligne que cette entrée manuelle-là, c'est pas juste pour les petits joueurs. Même dans un méga entrepôt automatisé, ça agit comme filet de sécurité.
Oui, si le scanner brise ou si l'étiquette est arrachée, on fait quoi?
Ben c'est ça, la ligne de production s'arrête pas, l'opérateur passe au clavier et le flux continue. L'opération reste super résiliente.
Cette validation systémique, que ce soit par laser ou par clavier, ça devient une question de survie dans certains secteurs. L'article donne des exemples d'industries où la marge d'erreur visuelle est infinie.
La santé et la beauté, par exemple, c'est le cas typique.
Ah, ça doit être traître.
Très. Les employés manipulent des dizaines de nuances de fond de teint dans des flacons identiques ou des sérums dont la formule chimique varie d'un pour cent.
Une erreur d'expédition là-dedans, c'est pas juste plate, ça peut causer des réactions allergiques graves.
Exact. Le risque dépasse de loin l'insatisfaction commerciale. C'est la sécurité du client qui est en jeu.
L'électronique, c'est un autre champ de mine. Un câble d'alimentation noir de base ressemble tellement à un câble de données haute vitesse.
Ou les adaptateurs électriques, tu sais, avec les petites broches qui varient d'un millimètre selon la génération de l'appareil.
Le travailleur peut pas commencer à lier l'ampérage en tout petit sur chaque chargeur avant de le mettre dans la boîte, ça finirait plus.
Le texte explore aussi la mode, les vêtements, les chaussures avec les styles, les grandeurs, les couleurs. Et un modèle d'affaires vraiment complexe, ce sont les boîtes d'abonnement.
Oh, les fameuses trousses thématiques mensuelles.
Ouais, ça exige d'assembler plein de composants disparates. Si tu oublies un seul petit échantillon, tu brises la promesse faite au client.
Et le logiciel force l'arrêt si la boîte n'est pas complète. C'est génial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Parce qu'on impose une action supplémentaire pour chaque objet, on accumule des micro-délais.
C'est le grand paradoxe.
En logistique, la productivité se calcule à la fraction de seconde. Comment on justifie le ralentir consciemment le mouvement physique sur la ligne d'emballage?
Cela soulève une question importante sur la définition même de la vitesse. Évaluer la performance juste par le temps que ça prend pour fermer une boîte, c'est trompeur.
C'est un peu le principe de base en menuiserie, tu sais. Mesurer deux fois, couper une fois. Prendre 2 secondes de plus maintenant, sauve des heures de paperasse plus tard.
Exactement. La vraie vélocité, c'est de finir une transaction sans jamais faire de retour en arrière. La source cible, d'ailleurs, des métriques super précises pour évaluer le véritable impact opérationnel.
On regarde quoi concrètement?
D'abord, une chute drastique des signalements d'erreurs par les clients, ce qui fait baisser mécaniquement les expéditions de remplacement et les frais de logistique inversés pour les retours.
Et ça, ça gruge les marges de façon agressive.
Totalement. En plus, la charge du centre d'assistance diminue, libérant les agents. Le coût global pour traiter une commande du premier coup est nettement inférieur, malgré les secondes ajoutées.
Il y a aussi un avantage stratégique énorme que l'article mentionne, c'est la standardisation de la formation. C'est un milieu avec un roulement de personnel fou.
Quand tu dois embaucher 50 temporaires pour le vendredi fou, c'est critique.
Sans système, une recrue dépend de son jugement ou du gars d'à côté. Avec Scan & Ship, le processus est uniforme et non négociable.
Dation implacable. Le logiciel standardise l'excellence.
Ça permet de gérer la croissance, que tu expédies 100 colis ou 10 000. Pour résumer, on passe d'une vérification visuelle faillible, basée sur la mémoire, à un processus intégré étape par étape.
Qui protège l'expérience client et les marges de l'entreprise.
Avec ou sans équipement spécialisé, en plus. Mais tu sais, ça m'amène à une dernière réflexion qui va au-delà de la source d'aujourd'hui.
Je t'écoute.
La source souligne à quel point ces outils-là garantissent que la bonne commande part du premier coup. Mais si le déploiement de ces technologies-là rend l'exactitude à 100 % la norme absolue de l'industrie, est-ce que la psychologie des consommateurs va changer?
C'est une bonne question.
Si la perfection parfaite devient la base minimale de nos vies, est-ce que notre niveau de tolérance pour la moindre petite erreur humaine va complètement disparaître?
Plus le droit à l'erreur, nulle part.
Que ce soit un oubli au resto, une variation dans un produit artisanal ou même au travail, est-ce que cette dépendance à des systèmes infaillibles va nous forcer à tous devenir des machines parfaites?
C'est une réflexion assez vertigineuse laissée en suspens pour quiconque navigue dans le futur du commerce.
Ça donne matière à réfléchir, c'est certain.
Absolument.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine analyse.